On va pouvoir aujourd'hui amorcer la troisième et dernière séance de ce cours sur les années 1930 reviennent et la gauche est dans le brouillard. Donc je vais juste effectuer d'abord quelques rappels par rapport aux deux premières séances, puisque les personnes qui sont là ne sont pas forcément toujours celles qui étaient aux précédentes. Donc l'ouvrage de référence pour bâtir ma problématique générale est le livre de Pierre Bourdieu, L'ontologie politique de Martin Heidegger, qui est un livre de 1988, particulièrement le chapitre 1 où Bourdieu s'intéresse à l'émergence de ce qu'il appelle une humeur idéologique révolutionnaire conservatrice dans l'Allemagne de Weimar, c'est-à-dire entre 1918 et 1933. Une de mes hypothèses principales explore alors des logiques autonomes analogues à celles analysées par Pierre Bourdieu dans la France d'aujourd'hui. L'idée, c'est qu'une humeur que j'appelle néoconservatrice à tonalité xénophobe, machiste, homophobe et nationaliste se consoliderait aujourd'hui dans les espaces publics en France, et cette humeur idéologique néoconservatrice pourrait être le terreau intellectuel facilitant le développement et la consolidation de ce que on peut appeler un post-fascisme, en référence à une notion avancée par le géographe libertaire Philippe Pelletier. Pourquoi post-fascisme? Pour pointer des analogies entre les années 30 en Allemagne et la situation actuelle, mais pas une identité, pour montrer qu'il y a aussi, disons, dans les processus historiques, des éléments spécifiques et des différences. Bon. D'où l'usage d'un autre mot. L'émergence de ce néoconservatisme est à mettre aussi en rapport avec le brouillard intellectuel, éthique et politique qui règne largement dans les gauches aujourd'hui. Les deux sont à mettre en rapport, d'où le titre général des séances. Donc, lors de la première séance, j'ai pointé des traces de fétichisation du national comme devenant le principal cadre de réponse aux problèmes économiques et sociaux actuels, et corrélativement de la dévalorisation du mondial et de l'européen. Et cela non pas simplement par des intellectuels de droite ou d'extrême droite, des leaders de droite ou d'extrême droite, mais par des intellectuels critiques à gauche. Avec le péril particulier de cette fétichisation du national et cette dévalorisation du mondial et de l'européen, c'est qu'elle intervient dans un contexte de montée de nationalisme xénophobe. Ces intellectuels critiques, dont j'ai parlé, Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, Cédric Durand et François Ruffin, je les ai traités comme des désarmeurs de la gauche par rapport aux dangers du contexte actuel. Puis, dans une deuxième séance, je me suis arrêté principalement sur deux figures principales participant au bricolage de cette nouvelle idéologie néoconservatrice: Alain Soral pour le pôle antisémite actif dans l'underground de l'Internet, et Éric Zemmour pour le pôle au dérapage islamophobe et négrophobe actif là dans les médias les plus en vue. Et puis j'ai, dans la séance dernière, secondairement traité deux intellectuels de gauche qui n'ont rien à voir avec les tonalités xénophobes de ces discours, mais que j'ai envisagé comme des désarmeurs et des brouilleurs de la gauche face à la montée de ce néoconservatisme. Il s'agit de Laurent Bouvet pour la galaxie autour du PS et de Jean-Claude Michéa pour la gauche de la gauche sociale-libérale. Donc aujourd'hui, je serai centré sur le Front National de Marine Le Pen comme forme probable d'un post-fascisme possible en France. Alors mon propos sera découpé en deux grandes parties. La première partie puisera dans la sociologie politique afin de proposer une mise en perspective sociopolitique du FN depuis le début des années 1980. La seconde partie relèvera davantage d'une philosophie politique émancipatrice, et en m'appuyant sur les analyses de la première partie, je suggérerai des pistes pour une stratégie à gauche face au FN. Donc, première partie de cette séance, ce que j'ai appelé « clivage national-racial contre question sociale », un cadre d'analyse sociopolitique pour interpréter les progrès de l'extrême droite en France. Le cadre d'analyse du FN que je vais présenter dans cette première partie va prendre principalement appui sur des ressources de sociologie et de sociologie politique, inspirées notamment de Pierre Bourdieu. J'avais formulé une première fois ce cadre dans un article publié dans la revue Contretemps en septembre 2003. C'était un autre moment des cheminements du Front National. Ce que je vais avancer ici va procéder à une actualisation par rapport à 2003. Alors, ce cadre d'analyse ne prétend pas intégrer l'ensemble des données nombreuses qui ont été accumulées sur le FN, sociologiques, ethnologiques, historiques, linguistiques, politologiques, géographiques, électorales, journalistiques, etc. Il vise plutôt à fournir une série de repères globaux à un niveau proprement sociopolitique susceptible de constituer une boussole dans la masse des informations et des informations disponibles sur le FN comme des évolutions en cours. Les repères globaux que je propose aujourd'hui à la discussion tournent autour de l'hypothèse d'une compétition en France entre ce que je vais appeler le clivage national-racial et le clivage de la justice sociale, appelé aussi question sociale. Compétition de deux clivages autour de ce que serait la représentation la plus pertinente des conflits de la société française aujourd'hui. Alors, pour mieux comprendre ce clivage, il faut faire d'abord un détour par un pôle de l'approche sociologique des groupes sociaux qui s'est particulièrement développé au cours des années 1980, ce qu'on appelle la lecture dite constructiviste. Donc je vais passer par un petit moment, disons, de présentation d'un cadre ou plutôt d'un pôle d'analyse théorique des groupes sociaux qui s'est développé dans ce que j'ai appelé les nouvelles sociologies. Donc je renvoie à mon petit manuel intitulé « Les nouvelles sociologies » qui présente ce courant. Ce schéma donc d'analyse que je propose pour appréhender les développements de l'extrême droite en France ces dernières années puise donc dans ces lectures dites constructivistes des groupes sociaux. C'est un ensemble de ressources théoriques qui prend source dans les travaux pionniers d'un historien britannique, Edward P. Thompson, dans les années 1960, notamment son grand livre sur disons la formation de la classe ouvrière anglaise. Mais ce livre n'a eu des échos dans la sociologie que à la fin des années 70 et même au début des années 80. Et donc ce cadre constructiviste en sociologie a surtout été confectionné à la fin des années 1970, au début des années 1980, notamment par Pierre Bourdieu et en interaction avec lui par Luc Boltanski à travers sa célèbre étude sur l'histoire des cadres en France. Pierre Bourdieu, quant à lui, met en particulier l'accent sur deux aspects principaux pour analyser les groupes sociaux. D'abord, l'importance des luttes de classements sociaux dans la vie des groupes sociaux. Qu'est-ce que c'est que ces luttes de classements sociaux ? C'est les luttes symboliques autour de la définition des classes et des groupes. Comment on va définir une classe ? Comment on va délimiter des groupes ? Qui va constituer pour lui une des modalités des luttes de classes. Il y a deux grandes classes. Par exemple, exemple de ces luttes de classements sociaux, est-ce qu'il y a deux grandes classes dans les sociétés comme la société française, ou la bourgeoisie et la classe salariée, ou est-ce qu'il y a trois classes avec une immense classe moyenne? Voilà le type, disons, de lutte symbolique autour de comment on découpe les groupes sociaux. Ça, c'est la dimension, disons, symbolique des luttes de classements sociaux. La deuxième élément important pour Pierre Bourdieu dans cette approche constructiviste, c'est la contribution de ce qu'on appelle la représentation politique à l'existence publique des groupes, c'est-à-dire l'existence de représentants, de porte-parole, alors associatifs, syndicaux, partisans, etc., qui font exister le groupe dans un espace public, par exemple, dans cette perspective, les intérêts des malades du sida n'existent pas à un moment donné, disons, dans les années 90 en France, s'il n'y a pas des associations comme AIDE ou ACT UP, les dimensions écologistes n'existent pas s'il n'y a pas d'association écologiste, s'il n'y a pas un parti vert, etc. Les intérêts et les aspirations du monde ouvrier n'existent pas s'il n'existe pas un mouvement ouvrier avec des syndicats, des associations et des... Donc c'est la dimension des représentants, des porte-paroles qui portent la parole d'un groupe dans les espaces publics et qui contribuent en portant la parole de ce groupe à le faire exister, à lui donner une existence publique, bon, plus ou moins grande. Si on veut rassembler ces deux aspects mis en avant par Bourdieu, on peut dire que dans les lectures constructivistes, les groupes sociaux et les clivages sociaux ne sont vus ni comme des nécessités objectives, comme dans nombre d'analyses marxistes, ni comme des illusions idéologiques, comme dans nombre d'analyses libérales, mais les groupes et les clivages sociaux sont vus comme des construits socio-historiques, comme le résultat d'une construction sociale historique, qui va plus ou moins être dotée d'une épaisseur historique et réactivée dans la vie quotidienne de ces sociétés. Dans cette construction socio-historique des groupes, Bourdieu donc a insisté notamment sur ce double travail symbolique et politique. Symbolique d'homogénéisation du sens à travers des représentations communes au groupe, des symboles partagés, des mots communs, des discours communs, donc c'est la partie symbolique. Politique, c'est l'unification des identités à travers des représentants, des porte-paroles, des institutions, syndicats, partis, associations, etc. Ce double travail symbolique et politique est un élément qui va ne produire qu'une intégration relative d'expériences et d'intérêts plus ou moins disparates à chaque fois. À chaque fois, il y a une diversité d'intérêts, d'aspirations, de situations dans tous ces groupes. Et le travail symbolique et le travail politique va n'opérer que ce qu'on pourrait appeler une intégration relative, une homogénéisation relative, mais de réalités qui sont toujours plus ou moins disparates. Ce travail symbolique et politique n'existe pas à partir de rien, il n'est pas complètement arbitraire, il n'est pas simplement une invention, mais il opère à partir des réalités inscrites dans les situations concrètes. Mais ce que va faire ce travail symbolique et politique, c'est que il va sélectionner certains traits des expériences ordinaires en les mettant en avant dans la construction politique et il va mettre de côté d'autres traits. Par exemple, une construction qui va insister sur l'opposition entre patrons et ouvriers va mettre l'accent sur ce qui, dans l'expérience ordinaire, renvoie à cette opposition entre patrons et ouvriers, mais par exemple peut mettre de côté l'opposition entre hommes-femmes ou français-étrangers, par exemple. Par contre, une construction autour du clivage national-racial va mettre en avant l'opposition entre Français et étrangers, mais va mettre de côté, ou comme secondaire, des oppositions comme hommes-femmes ou patron-ouvrier. Bon. Donc ce travail symbolique et politique n'opère pas à partir de rien, il opère à partir, disons, de réalités qui sont inscrites dans les situations concrètes et dans les expériences ordinaires, mais il va, disons, monter certains traits de cette expérience pour en faire le cœur de la construction politique et, au contraire, disons, va en mettre de côté d'autres. Bon. Ces constructions ont bien sûr une part volontaire et réfléchie, c'est-à-dire que ça participe aussi de la volonté, de la conscience d'une série de personnes, mais en même temps, cela se révèle, cette dimension consciente et volontaire, secondaire par rapport à des dynamiques sociopolitiques plus inintentionnelles ou non intentionnelles, c'est-à-dire que l'ensemble des processus qui sont engagés ne sont maîtrisés par aucune conscience et par aucune volonté, mais au contraire vont peser comme contrainte sur l'ensemble des participants. Ce qui va s'opérer alors, c'est qu'à partir d'expériences, d'aspirations, de frustrations, de ressentiments plus ou moins hétérogènes, dans leur cause comme dans leur manifestation, vont alimenter alors, dans des malentendus, dans des ambiguïtés, à chaque fois dans chaque construction de groupe, une sorte de ce que j'appelle un conducteur de généralisation des vécus singuliers. C'est-à-dire, c'est comme si les expériences singulières rentraient dans des tuyaux qui vont généraliser ce qui est vécu, qui vont ne garder d'ailleurs de ce qui n'est vécu que certains aspects pour les porter dans ces conducteurs de généralisation ou ces tuyaux de généralisation. On pourrait aussi parler donc, au lieu de conducteurs de généralisation ou de tuyaux de généralisation, d'une machinerie d'intertraduction, pour utiliser une expression qui est intéressante dans ce qu'on appelle la sociologie des sciences, développée par Michel Calon et Bruno Latour, où les différentes expériences vont se traduire les unes les autres dans quelque chose de plus général, d'intertraduction, donc une machinerie d'intertraduction, ou une machinerie de mise en équivalence, pour emprunter une notion à la sociologie pragmatique de Luc Boltanski et Laurent Thévenot, c'est-à-dire on va mettre en équivalence des expériences qui par ailleurs sont singulières et donc très différentes. Bon. Donc on a ces conducteurs de généralisation ou ces machineries d'intertraduction qui vont opérer à partir d'expériences, de situations, de frustrations très diverses, mais qui vont leur donner une certaine cohérence. Cet outillage théorique, que j'ai résumé ici à grands traits, se présente comme une approche de sociologie politique dans le sens où elle ne se centre pas simplement sur le champ politique institutionnel, ou à l'inverse ne cherche pas les clés du problème dans les évolutions sociales extérieures au champ politique institutionnel, mais en fait ce cadre d'analyse va braquer l'attention sur les rapports, sur les passages entre la politique institutionnelle et des choses qui se passent dans la société. C'est pour ça que je l'appelle sociopolitique. Alors, à partir de là, on peut penser à une mise en perspective historique, disons, de la construction, disons, sociopolitique autour du Front National depuis le début des années 80. Alors on pourrait dire que la France, avec le travail politique de la gauche, d'ailleurs tant dans ses variantes marxisantes que chrétiennes sociales, qui sont les deux variantes qui ont marqué notamment l'histoire de la gauche, avec des effets à droite aussi, puisque d'une certaine façon cette façon de procéder a eu des effets ou a été admise d'une certaine façon par le gaullisme par exemple. Donc la France, avec ce travail politique de la gauche, a longtemps été marquée par une certaine représentation, disons, dominante de la question sociale, avec une opposition autour de riches-pauvres ou patrons-ouvriers. Bon. C'est ça que j'appelle le clivage de la justice sociale. C'est-à-dire, c'est un clivage autour de la production et de la répartition des ressources. Souvent pensé à propos de ressources économiques, hein, entre les individus, mais ça pourrait être élargi à des ressources culturelles, politiques, et à des ressources de reconnaissance sociale, etc. C'est ce que le mouvement ouvrier a appelé souvent le clivage de classe. Bon. Mais comme dans le cadre de la lecture constructiviste, cette façon n'est pas la seule façon de construire les classes, puisqu'on va voir qu'il y a une autre façon de construire les classes ou les classements sociaux, par exemple entre Français et étrangers. Donc au lieu de dire clivage de classe comme s'il y avait qu'un clivage de classe, je préfère parler de clivage de la justice sociale ou de questions sociales pour bien mettre en évidence que à chaque moment, il y a différentes façons de découper les classes d'individus dans une société. Et il y a justement une compétition pour savoir comment on va classer les individus et à partir de quelle classe. Bon. Ce clivage de la justice sociale, qui était dominant très fort en France, a subi un certain effritement à partir de la fin des années 1970, pour des raisons diverses liées à la fois à des dimensions structurelles qui vont affecter la société, par exemple, diversification du salariat, forme plus poussée d'individualisation dans la société, et puis des raisons qui sont pas liées à la transformation structurelle de la société, mais à des évolutions proprement politiques, et notamment à l'affaiblissement des institutions qui ont mobilisé ce clivage, qui l'ont porté. Affaiblissement du Parti communiste français et de la CGT, et plus largement des syndicalisations qui vont, disons, être là du côté des institutions de mobilisation de ce clivage de la justice sociale ou de la question sociale. Dans le recul de la question sociale dans le domaine politique, la déconstruction du groupe ouvrier et sa dévalorisation dans l'espace public va jouer un certain rôle. C'est notamment ce qu'ont analysé les travaux de Stéphane Beau et Michel Pialou, notamment sur les usines Peugeot de Sochaux et Montbéliard. Ce groupe ouvrier représentait un moteur symbolique du clivage de la justice sociale, l'image de la classe ouvrière qui aurait été au cœur de la conflictualité sociale, et jouait un rôle aussi important de moteur militant, les réseaux associatifs, syndicaux et partisans qui portaient, disons, le clivage de la justice sociale. Donc une certaine recul de la question sociale a à voir aussi avec la déconstruction du groupe ouvrier, sa dévalorisation dans l'espace public. Il était d'une certaine façon au cœur d'une série de représentations et de travail militant, et il va reculer. En même temps, l'activité symbolique et politique qui va s'efforcer d'imposer une autre vision du monde va jouer aussi un rôle de déconstruction de ce clivage de la justice sociale. Cette activité symbolique et politique, elle va viser à imposer une version ternaire de la société plutôt qu'une vision binaire avec l'opposition entre la bourgeoisie et la classe salariée ou le prolétariat. Vision ternaire qui est l'idée de qu'il y aurait dans la société française quelques riches, une immense classe moyenne et quelques pauvres. C'est une vision qu'on va trouver au cours des années 80 chez Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président, notamment dans un livre qui s'appelle « Deux Français sur trois », hein, ce serait l'immense classe moyenne. On va la retrouver dans une institution qui a joué un grand rôle dans la conversion, disons, au néolibéralisme de la gauche, qui est la Fondation Saint-Simon. On va la trouver dans la revue Esprit. On va la trouver aussi beaucoup, pour la populariser, chez l'essayiste François de Clauset, qui va être un des premiers à systématiser cette vision en termes de quelques riches, une immense classe moyenne et quelques pauvres. Souvent, cette vision ternaire du monde social va s'appuyer sur la critique des corporatismes, notamment des corporatismes syndicaux, c'est le cas chez De Clauset, qui va contribuer à défaire un peu plus, disons, le mouvement ouvrier qui s'était fondé notamment sur des corporations, disons, et des métiers. Enfin, le tournant social-libéral du PS à partir de 1983, les déceptions successives vis-à-vis de la gauche de gouvernement, du point de vue des attentes sociales dans la population en général et dans les milieux populaires en particulier, vont constituer des facteurs supplémentaires qui vont être dissolvants vis-à-vis, disons, de ce clivage de la justice sociale. Symboliquement, d'ailleurs, dans le même temps, les notions de lutte des classes et d'ouvriers ont tendu à disparaître du vocabulaire du PS à partir de la fin des années 80 et du début des années 1990. C'était encore des notions qui étaient dans ses principes fondateurs jusqu'à la fin des années 1980. Et ces notions de lutte des classes et d'ouvriers vont être, disons, en général, remplacées par une thématique vague de la solidarité et l'appel souvent aux classes moyennes plutôt qu'aux ouvriers ou à la classe ouvrière. Alors, par rapport à ce recul, disons, d'abord il faut bien penser la chose avec le recul du clivage de la justice sociale ou de la question sociale, comme étant au devant de la scène politique. Mais ce n'est pas le clivage ternaire, c'est-à-dire avec trois classes, avec une immense classe moyenne qui va prendre la place du clivage de la justice sociale. Ce clivage ternaire a surtout fonctionné dans un premier temps du côté des élites économiques, technocratiques, politiques et médiatiques, mais n'aura pas un si grand écho que ça dans la population. En fait, au cours des années 1980, un autre clivage va en partie prendre la place ou l'espace laissé vide par le clivage de la justice sociale. C'est un clivage qui n'est pas complètement récent. D'une certaine façon, il a été réactivé dans une nouvelle forme. C'est ce que j'appelle donc le clivage national-racial, c'est-à-dire autour de l'opposition français-étranger. Donc que ça serait plus riche-pauvre ou patron-ouvrier, le cœur de la société française, mais français-étranger. Je parle de clivage national-racial parce que dans ce clivage, dans la façon de le formuler, notamment dans le Front National, il y a une ambiguïté entretenue entre le référent national et le référent racial ou ethnique, hein, puisque une partie de ceux qui sont perçus comme étrangers sont juridiquement français, et pourtant ils vont être thématisés comme étrangers. Et donc il y a cette ambiguïté qui joue sur le national et le racial ou l'ethnique dans ce clivage. Il vaut mieux d'ailleurs parler pour appréhender l'activité de cette machinerie d'intertraduction. Il vaut mieux parler d'ethnicisation ou de racialisation comme un processus plutôt que de racisme. Pourquoi ? Puisque ça permet d'appréhender, disons, la dimension à la fois processuelle et composite des choses. C'est un processus réversible et non exclusif d'autres logiques, c'est une même personne d'ailleurs. Parfois ça peut être chez une même personne ponctuelle. Parfois c'est quelque chose qui va être mis en avant à un moment donné et reculé dans l'ensemble de la société. On a connu des moments où le clivage de la nationale raciale va reculer et le clivage de la justice sociale va reprendre de l'importance, notamment après le mouvement social de 1995. Donc c'est pas simplement quelque chose qui monte nécessairement, mais il y a des moments de recul ou de montée. Et chez une même personne, ça peut être plus ou moins ponctuel, le fait de s'accrocher à ce type de clivage ou pas. Donc, parler d'ethnicisation ou de racialisation, ça permet de ne pas présupposer la présence d'une vision du monde clairement constituée, explicite, stabilisée, qu'on appellerait racisme, chez les personnes qui se saisissent à un moment donné de ce clivage. Il vaut mieux, disons, garder le terme de racisme pour ces visions du monde assez stables, constituées, explicitées, et parler de ces processus plus mouvants, parfois plus ponctuel, d'ethnicisation ou de racialisation. Le clivage national-racial va d'autant plus progresser que le clivage de la justice sociale va s'affaiblir. Il faut bien voir le rapport entre les deux. Cet affaiblissement du clivage de la justice sociale se fait surtout au moment où le clivage national-racial progresse, surtout sur le mode d'une désaffection par l'abstention. En fait, il faut bien avoir en tête que le premier parti populaire et au sens plus restreint de la catégorie socio-professionnelle ouvrier, le premier parti ouvrier, qui monte au cours des années 80, en tout cas si on prend populaire au sens au moins de l'électorat des ouvriers et des employés, ça n'apparaît pas jusqu'à présent le Front National, comme c'est souvent dit, mais ce qui montre, c'est l'abstention élargie aux non-inscrits. voilà, le premier parti populaire ou ouvrier, c'est l'abstention élargie aux personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Donc il y a une illusion qui veut croire qu'on se concentre sur les personnes qui votent, et on ne voit pas que ce qui monte, c'est la non-inscription sur les listes électorales et l'abstention, bon, dans les milieux populaires. L'abstention et la non-inscription étant plus importantes dans les catégories populaires. Je renvoie ici à deux livres importants qui ont bien souligné ces aspects. Celui de la sociologue Annie Colovald qui s'appelle « Le populisme du FN, un dangereux contresens » de 2004. Et puis celui de deux chercheurs en sciences politiques, Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagen, qui s'appelle « La démocratie de l'abstention aux origines de la démobilisation électorale en milieu populaire », qui est un livre de 2007. Qui est consacré à une analyse détaillée du rapport entre et du non-rapport aux élections dans un secteur particulier qui est la cité des cosmonautes à Saint-Denis, donc dans la région parisienne, une enquête menée entre l'hiver 2002 et le printemps 2006. Ainsi, alors que le FN avait été consacré premier parti ouvrier par nombre de commentateurs médiatiques, en 2002, alors que Jean-Marie Le Pen avait été qualifié, disons, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le candidat du FN avait obtenu au premier tour 18% du vote des ouvriers, alors que ceux-ci, les ouvriers, auraient été 31% soit à ne pas s'inscrire sur les listes, soit à s'abstenir. Hein? Donc 18% d'ouvriers qui votent FN, mais 31% qui soit s'abstiennent, soit ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc premier parti ouvrier ou premier parti populaire, c'est l'abstention et la non-inscription, c'est pas le vote FN. Donc le recul du clivage de la justice sociale se manifeste surtout par une désaffection par rapport à la politique institutionnelle, plus qu'une adhésion, disons, au Front National dans un premier temps. Bon. Par ailleurs, un certain nombre de données d'observation, alors d'enquêtes en ethnologie, en sociologie, en sciences politiques, ont mis en évidence que le travail symbolique et politique de généralisation qui est porté par le Front National avait embrayé sur des choses qui travaillaient la société française, qui étaient des processus dans certains secteurs de la société française de racialisation ou d'ethnicisation. Je pense en particulier aux travaux de l'ethnologue Gérard Altab dans les années 1980 sur ce qu'il a appelé la production de l'étranger dans les couches populaires urbaines. La façon dont la figure de l'étranger monte dans les représentations des couches populaires urbaines dans certaines cités face au risque de déclassement et de précarisation, comme si de mettre à distance l'étranger était une façon de se protéger face au risque, disons, de déclassement et de précarisation. Et donc on a connu, dans une série de cités populaires, des éléments d'ethnicisation et de racialisation, disons, sur lequel va opérer le travail, disons, de généralisation du Front National, ou à partir duquel il va opérer. On pourrait dire qu'ici, entre les éléments d'ethnicisation, ça n'existe pas partout dans la société française, mais dans un certain nombre de secteurs populaires, notamment dans les secteurs les plus soumis à la précarisation et au déclassement, on a une causalité circulaire, c'est-à-dire que des formes d'ethnicisation quotidienne vont nourrir le développement du Front National, et le Front National aurait nourri l'ethnicisation quotidienne en lui donnant, disons, plus de légitimité dans des espaces publics beaucoup plus larges que là où l'ethnicisation était portée. En fait, ce n'est pas le Front National qui créerait l'ethnicisation, mais le Front National donnerait une portée beaucoup plus générale et une légitimité à des éléments présents, mais plus dilués dans les expériences quotidiennes d'ethnicisation. Pour bien comprendre ce processus circulaire entre le travail de généralisation du Front National et des formes d'ethnicisation dans l'expérience quotidienne, on peut faire appel à l'analyse d'un des pionniers de la sociologie française de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui s'appelle Gabriel Tarde, qui est un auteur pas très connu parce que sa figure a été un peu éclipsée par celui qui a dominé la sociologie française à l'époque, qui était Émile Durkheim. Mais Gabriel Tarde, dans son livre de 1901, L'opinion et la foule, montre bien ce type de processus à propos d'un élément structurant à l'époque dans la société française, qui est l'antisémitisme. Et il parle notamment de journalistes et d'écrivains d'extrême droite antisémites comme Édouard Drumont. je cite ce passage de Gabriel Tarde. « À la vérité, pour que Édouard Drumont suscitât l'antisémitisme, il a fallu que sa tentative d'agitation répondît à un certain état d'esprit disséminé parmi la population. Hein? » Il a fallu que sa tentative d'agitation répondît à un certain état d'esprit disséminé parmi la population. Donc il ne crée pas complètement lui-même de facto hein, l'antisémitisme. Non. Il opère à partir de quelque chose de beaucoup plus disséminé. Mais tant qu'une voix ne se levait pas retentissante qui prêta une expression commune à cet état d'esprit, il restait purement individuel, peu intense, encore moins contagieux, inconscient de lui-même. Donc tant qu'il restait disséminé, il n'était pas porté sur la place publique, il avait une faible, disons, portée politique. Celui qui l'a exprimé l'a créé alors comme force collective. Il ne l'a pas créé en tant que tel, mais l'a créé comme force collective. Factice soit, réel néanmoins, en lui donnant une portée plus généralisante. Je sais des régions françaises où l'on n'a jamais vu un seul juif, ce qui n'empêche pas l'antisémitisme d'y fleurir parce qu'on y lit les journaux antisémites. Donc, cette ethnicisation, là, dans le cas de l'antisémitisme, on pourrait parler, dans le cas de la France aujourd'hui, de l'islamophobie, bon, cette ethnicisation, elle est présente dans l'expérience, plus ou moins diluée dans des secteurs. Que va faire le travail politique ? Va lui donner une représentation politique générale et va être porté par des institutions politiques qui vont la généraliser, lui donner de la légitimité et donc lui donner une réalité ou une existence dans des secteurs où elle n'existait pas avant. Hein, comme il dit, je sais des régions françaises où on n'a jamais vu un seul juif, ce qui n'empêche pas l'antisémitisme d'y fleurir parce qu'on y lit les journaux antisémites. Donc voilà un peu comment on peut analyser, disons, une forme de causalité, disons, circulaire entre le travail de généralisation que porte une institution politique comme le Front National et des formes d'ethnicisation plus diffuses, plus ponctuelles qui ont existé, en tout cas à partir du début des années 80, dans la société française. Alors, à partir de là, on peut souligner deux caractéristiques non exclusives dans la machinerie d'intertraduction du Front National. Dans cette machinerie qui va donner une portée générale à ces expériences quotidiennes. Première caractéristique, l'efficacité politique potentielle d'un slogan comme la préférence nationale, hein, le principal slogan du Front National depuis ses débuts. Cette slogan là, sur la préférence nationale a la caractéristique d'associer une perspective globale de changement de l'ensemble des institutions de la société française, hein, dans l'emploi, le logement, la protection sociale, la famille, etc. La préférence nationale réorganiserait l'ensemble de ce qui existe. Bon. Mais cette perspective globale de changement est associée à du quotidien plus concret, c'est-à-dire peut se connecter facilement à des expériences concrètes et quotidiennes. Telle ou telle personne pourra se dire que son fils va pouvoir occuper l'emploi ou le logement de l'immigré d'à côté. Bon. Donc à la fois, c'est très abstrait et global comme changement de la société, en même temps, ça peut devenir très concret. Hein. Or, c'est à noter, c'est une des faiblesses du clivage de la justice sociale. Aujourd'hui, il n'existe pas du côté de la question sociale, du côté du clivage de la justice sociale, un tel slogan généralisateur à la fois abstrait et concret, qui porte à la fois une telle réorganisation de la société globale et en même temps qui peut donner des points d'accroche concrètes, disons, à cette transformation globale de la société. Donc, efficacité potentielle très forte de ce slogan de la préférence nationale comme slogan abstrait-concret, on peut dire. Deuxièmement, la façon, dans cette machinerie d'intertraduction portée par le Front National, la façon dont l'association Insécurité-Immigration, qui est partée au départ par le Front National principalement, a fini par gagner d'une certaine façon, par avoir un large écho à droite, puisque c'est devenu maintenant quelque chose qui est largement admis à droite, et même à gauche. Bon. Donc sans doute que cette association Insécurité-Immigration, au départ simplement portée par le Front National, est un des conducteurs principaux de généralisation des ethnicisations quotidiennes. La boussole que je propose ici autour de cette compétition entre le clivage de la justice sociale aux questions sociales et le clivage national-racial nous oblige alors à regarder des phénomènes qui travaillent tant la société que le travail, disons, symbolique et politique effectué par les porte-paroles et les institutions. donc des choses qui travaillent la société, des formes diverses et même hétérogènes d'ethnicisation, et puis ce qui se passe du côté de porte-parole et d'institutions politiques. Bon. L'angle de sociologie politique que j'ai retenu permet donc de prendre en compte dans le même temps toute une série d'hétérogénéités des aspirations, des ressentiments sociaux qui sympathisent avec le Front National. Souvent, cette hétérogénéité est souvent pointée par la sociologie électorale et par les approches ethnographiques. On met souvent en évidence le caractère composite électoralement de l'électorat du Front National. Évolutif, c'est-à-dire que sa composition, disons, sociologique a beaucoup évolué avec le temps et est très mouvante. Et on peut avoir une très grande diversité d'aspirations et de ressentiments qui vont se caler sur le Front National. Donc, une hétérogénéité d'une certaine façon, mais en même temps, le mouvement proprement politique d'homogénéisation relative à partir de cette hétérogénéité. Homogénéisation relative à travers des symboles, des discours, une idéologie, tout ça qui occupe là plutôt les spécialistes des partis, les historiens des idées et ceux qui analysent les discours. Donc ce cadre permet d'essayer de mettre en rapport des choses qui sont pointées par la sociologie électorale, par des approches ethnographiques ou de sociologiques de terrain sur, disons, l'électorat du Front National, et puis, d'autre part, les travaux qui intéressent les spécialistes des partis, l'historien des idées, les analyses de discours. Dans ce cadre d'analyse, on peut dire que on ne peut pas dire que le clivage national-racial existe ou n'existe pas en soi, ou que le clivage de la justice sociale existe ou n'existe pas en soi. En fonction des conjonctures, chaque clivage existe plus ou moins, avec des moments de pénétration et des reculs. Je l'ai dit, par exemple, pour le moment 95, qui a plutôt été un recul du clivage de national-racial et un redéploiement du clivage de la justice sociale. Donc, en fonction des conjonctures, chaque clivage qui est en compétition existe plus ou moins à des degrés plus ou moins importants, à des degrés d'existence plus ou moins importants. Alors, voilà ce cadre général, cette mise en perspective historique du FN, et maintenant on va voir comment on peut interpréter à partir de ce cadre le moment du sarkozysme et ce qu'on pourrait appeler le relookage mariniste du FN. Dans ce cadre d'analyse, on peut interpréter le moment du sarkozysme qui est en fait antérieur au fait à l'accession de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, mais dès son travail, disons, fortement politique dans le gouvernement de Jacques Chirac en tant que ministre de l'Intérieur. Ce moment du sarkozysme peut être interprété comme quelque chose qui a fait reculer conjoncturellement le Front National, mais qui a donné plus de légitimité au clivage national-racial et donc a fourni de nouvelles possibilités de développement ultérieures au Front National. Voilà comment on pourrait analyser le moment du sarkozysme. À la fois, il a fait reculer conjoncturellement le FN pendant l'élection présidentielle de 2007, mais en même temps, il l'a fait en donnant de la légitimité à ce clivage national-racial et donc en donnant, disons, des possibilités nouvelles de déploiement du FN par la suite. Donc le sarkozysme a ainsi hérité de l'association immigration-insécurité, qui est d'une certaine façon un héritage du travail politique antérieur du Front National et de ses succès, et a fait de cette association immigration-insécurité un usage électoraliste plus soft, disons, on va dire, que le Front National. Ce serait sans doute une erreur de considérer ça a été fait, qu'il y a une équivalence entre sarkozysme et racisme. On aurait plutôt ce que j'ai appelé un usage électoraliste d'une sorte d'ethnicisation subliminale. Pourquoi une ethnicisation subliminale? Parce que un usage plus soft de l'association immigration-insécurité a été permis justement parce que ce clivage s'était inscrit d'une certaine façon dans l'espace politique et symbolique, idéologique. Et donc, l'usage de cette association a pu devenir moins forte, plus subliminale. Par exemple, lors de la campagne de 2007, il suffisait qu'on utilise l'expression « les jeunes » pour qu'une partie de la population, sans qu'on en dise plus, comprenne automatiquement « jeunes arabes de banlieue délinquants ». Donc, c'est ça que j'appelle subliminal. C'est-à-dire, il suffisait qu'on dise « les jeunes » pour que du fait de l'inscription antérieure de ce clivage, on entende, quand on entend les jeunes, quelque chose de plus qu'on n'avait pas besoin de préciser, hein. Les jeunes arabes de banlieue délinquants. Bon. Sans avoir besoin d'ethniciser explicitement, c'est pour ça que je parle d'un usage électoraliste soft ou de xénophobie ou d'ethnicisation subliminale. Bon. Un élément puisé dans un livre, le livre de l'écrivaine Yasmina Reza, L'aube, le soir, la nuit de 2007, qui est une écrivaine qui a suivi auprès de Nicolas Sarkozy l'ensemble de sa campagne, est intéressant. Il vient appuyer cette hypothèse. Il s'agit d'une intervention de Nicolas Sarkozy devant quelques partisans, quelque temps avant le premier tour de la présidentielle de 2007. Je cite Yasmina Reza, qui le met dans la bouche de Sarkozy. Si on n'avait pas l'identité nationale, on serait derrière Ségolène. Si je suis à 30%, c'est qu'on a les électeurs de Le Pen. Si les électeurs Le Pen me quittent, on plonge. Bon. On voit bien cet usage, disons, électoral de l'héritage du Front National, ou électoraliste, disons, explicite, disons, dans la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. On pourrait dire que les recettes du Sarkozy sont aussi utilisées aussi beaucoup plus largement aujourd'hui. C'est la droite décomplexée de Jean-François Copé qui utilise maintenant, disons, de manière explicite ce type de recette du sarkozysme. C'est aussi quelqu'un qui, jusqu'à présent, avait une image dite républicaine et modérée comme François Fillon et qui, maintenant, a mis le doigt dans cet usage, disons, ces recettes du sarkozysme. Donc, qui met davantage le doigt dans d'une certaine crédibilité du clivage national-racial. Et dans cette compétition proprement politicienne qui tend à polariser l'ensemble du champ politique, hein, on a l'impression que c'est le clivage national-racial qui tend à polariser l'espace politique plutôt aujourd'hui que le clivage de la justice sociale, on peut dire que Manuel Valls, du côté gauche, cette fois, a lui aussi été tenté par mettre un doigt dans ce clivage, notamment dans son association entre insécurité et Roms, et donc dans une forme d'ethnicisation, dans l'idée qu'il y aurait un groupe de la population, les Roms, qui ne pourraient pas être intégrés dans la société française. Tout en mettant aussi dans le même temps la main dans une certaine stigmatisation de l'islam au nom de la laïcité, cette fois. Parce qu'il faut voir que un certain usage de la laïcité, aujourd'hui, sert à la progression du clivage national-racial. Ces échos de l'ethnicisation se retrouvent aussi dans le réseau dont j'ai parlé la semaine dernière au sein du PS, appelé la gauche populaire, qui est un réseau notamment composé de parlementaires et même de dirigeants socialistes nationaux. On l'a vu la dernière fois à travers des discours qui utilisent la catégorie de petits blancs qu'il faut défendre face à l'état d'insécurité culturelle. On a là, dans ce couple entre les petits blancs menacés d'insécurité culturelle, au sein d'une série de dirigeants du Parti Socialiste aussi, un doigt qui est mis dans le clivage national-racial. Aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse alors que dans l'après-sarkozisme, la légitimation apportée par le sarkozisme au clivage national-racial, et après le sarkozisme par François Fillon, Jean-François Copé, jusqu'à Manuel Valls, et d'une certaine façon la gauche populaire, tout cela, cette légitimation apportée au clivage national-racial, risque de profiter surtout à Marine Le Pen. D'autant plus qu'elle risque en même temps de bénéficier de l'abstention associée, j'ai parlé tout à l'heure de l'abstention et de la non-inscription sur les listes électorales, de l'abstention associée aux déceptions vis-à-vis de la politique d'austérité de François Hollande. Par ailleurs, ce qui facilite, disons, le fait que le Front National de Marine Le Pen, bénéficie de cela, c'est évidemment le travail de relookage du nouveau Front National de Marine Le Pen. Avec un travail de, on va dire, de républicanisation, c'est-à-dire le fait de se saisir d'une série de symboles de la République et des thématiques républicaines, ce qui n'était pas, disons, le cas de l'extrême droite avant. Et notamment quelque chose qui était très éloigné antérieurement du fait du poids des catholiques intégristes dans le FN, du discours sur la laïcité. Bon. Avec cette républicanisation et cette laïcisation, qui d'une certaine façon a été, actée et reconnue par une série des bricoleurs du néoconservatisme dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire des gens comme Éric Zemmour ou Elisabeth Lévy, bon, qui ont participé à cette à la reconnaissance de cette républicanisation du Front National. Bon. Disons, cette républicanisation et cette laïcisation du nouveau FN tend, disons, à se débarrasser des blocages qui étaient ceux du FN et associés aux racines historiques de l'extrême droite et de son image de l'extrême droite. Donc une plus grande capacité à bénéficier, disons, du vent nouveau du clivage national-racial. Enfin, les thèmes nationaux-raciaux sont de plus en plus associés à des thèmes sociaux et même critiques vis-à-vis de la mondialisation néolibérale du capitalisme dans le discours du Front National. Alain Soral, dont j'ai parlé la dernière fois, dit que c'est lui qui a convaincu le Front National, alors qu'il était membre, de mettre l'accent sur la question sociale. Hein, que c'est là-dessus qu'il a réussi à convaincre le Front National d'un déplacement de son discours. Et le Front National constitue un passage entre le clivage national-racial et la question sociale, en faisant d'une certaine façon du cadre national, un cadre national aux tonalités xénophobes, la réponse à la question sociale. Donc, avant on avait simplement le clivage national-racial, là on a un clivage national-racial qui est principal et qui prétend répondre à la question nationale, et qui donc est absorbé par le Front National. Quand vous entendez Marine Le Pen ou Philippot le matin à la radio, parfois vous avez l'impression d'entendre Georges Marchais dans les années 70, sur les grands monopoles, etc. D'où la question que j'ai posée lors de la première séance, c'est le risque de discours critiques de gauche qui refont du cadre national le seul cadre de référence aujourd'hui, de réponse aujourd'hui, parce que le Front National est nettement en avance sur cette question et c'est plutôt les usages, disons, xénophobes de la nation qui sont en pointe ce que Jean-Claude Kaufmann appelle le national-racisme. À la veille donc des élections municipales et européennes, on est ainsi en phase, dans une phase qui dote le Front National de davantage de crédibilité, ou ce qu'on pourrait appeler la réponse nationale sociale du nouveau Front National, sur fond d'abstention prévisible, disons, d'une partie importante de l'électorat populaire. Alors voilà, ça c'est ma première partie qui visait à mettre en perspective la question de l'histoire du Front National par rapport à ce cadre d'analyse théorique constructiviste, notamment emprunté à Pierre Bourdieu, et qui a essayé de voir la période qui s'est déroulée à travers la compétition entre le clivage national-racial et le clivage de la justice sociale aux questions sociales. Maintenant, je vais envisager dans un deuxième temps, qui sera un peu plus court, à la fois des écueils et des pistes dans les réponses de gauche, disons, face à à partir de cette analyse, face à cette situation. Donc je vais m'appuyer évidemment sur les analyses de la première partie. Et je vais explorer des réponses possibles à gauche face à cette situation. Et donc je vais passer de ressources qui étaient plutôt celles de la sociologie, de la sociologie politique, à plutôt des ressources qui sont celles de la philosophie politique, c'est-à-dire d'une philosophie politique émancipatrice, hein, de comment on peut bâtir une cité différente. Je passerai d'abord en revue ce que je pense être des réponses erronées, et après j'avancerai quelques pistes alternatives. D'abord, les réponses erronées à gauche. On pourrait dire, dans la droite la plus sociale libérale du PS, on a une fondation qui s'appelle Terra Nova, et qui est dans la galaxie du PS, et qui a publié en mai 2011 un rapport intitulé « Gauche, quelle majorité électorale pour 2012 dans la perspective des élections de 2012 ?» Qu'est-ce qu'expliquait le rapport de cette fondation Terra Nova ? Elle expliquait que l'ancienne coalition historique, c'est l'expression utilisée, qui avait caractérisé la gauche autour des classes populaires, devait être électoralement abandonné, donc on devait abandonner cette coalition historique, au profit d'une nouvelle coalition, c'est l'expression aussi, nouvelle coalition autour des valeurs, et non plus des classes populaires, des valeurs, dans une stratégie centrale appelée France de demain, une dynamique d'une nouvelle France, bon, France de demain. Dans ce rapport, on avançait notamment: le FN se pose en partie des classes populaires, il sera difficile à contrer. Bon, d'une certaine façon, ce rapport fait que finalement les classes populaires seraient nécessairement maintenant du côté du Front National et on ne pourrait plus rien y faire. Hein. Bon. Le populaire, qui est présenté donc là plutôt comme une essence négative, hein, parce qu'il est plein de valeurs qui ne sont pas les valeurs, les nouvelles valeurs montantes de la gauche, d'après le rapport de Terra Nova, le populaire aurait donc basculé à droite et à l'extrême droite, il ne serait plus récupérable du point de vue des valeurs de gauche. Voilà, c'est la thèse de ce rapport. Il faudrait alors opposer l'essence positive de l'européen à l'essence négative du populaire, irrémédiablement associer le populaire au national. Hein. Il y a la dynamique européenne liée à des nouvelles couches sociales et il y a le populaire qui serait nécessairement lié au national et au Front National. Bref, on pourrait dire que c'est une variante euphémisée pour technocrate rose, des pauvres sont des cons et de mes copains cadres dynamiques sont sympas. Bon. Terra Nova, donc, qui constitue un élément important dans la galaxie du PS, constitue sans doute une impasse du point de vue de la réponse apportée, hein, c'est une réponse à apporter, puisque cette réponse, ça signifie acter une rupture définitive entre la gauche et les classes populaires, et ça risque de faciliter, dans la logique d'une prophétie autoréalisatrice, hein, une prophétie qui finirait par se réaliser dans l'avenir, ça facilite les liaisons entre le FN et les classes populaires, dont j'ai dit qu'elles n'étaient pas complètement univoques, etc. Le vote populaire est très divers, et ce qui est le principal aujourd'hui dans le vote populaire, enfin dans le rapport populaire au vote, c'est l'abstention et la non-inscription sur les listes électorales. Mais évidemment, le fait de dire que les classes populaires sont nécessairement du côté du FN, ça, c'est un élément qui peut faciliter cette évolution donc pour l'avenir. Donc ce qu'on pourrait appeler une prophétie autoréalisatrice. Donc premier type de réponse, la réponse, disons, sociale-libérale de la fondation Terra Nova. Une autre série de réponses se présente comme plus à gauche, mais elle a le désavantage d'offrir aussi des passages avec le néoconservatisme dont j'ai parlé lors de la deuxième séance. Alors, cette série de réponses a un caractère assez composite à partir d'un noyau commun. Le noyau commun tourne autour de l'association entre le populaire et le national. Hein. On retrouve l'association entre le populaire et le national, qui était négative dans le cas de Terra Nova, mais qui devient positive dans cette série de réponses. Donc on a une association positive entre le populaire et le national. C'est à gauche du PS, par exemple, la bataille avec le FN autour du protectionnisme. C'est le point de vue dont j'ai parlé lors de la première séance de François Ruffin, hein, l'ancien journaliste de l'émission de Daniel Mermet et du journal Fakir, hein, qui dit qu'il faut disputer au Front National le thème du protectionnisme. C'est le thème aussi du penseur Aurélien Bernier dans un livre qui est paru en début de l'année 2014, « La gauche radicale et ses tabous, pourquoi le front de gauche échoue face au Front National ». Aurélien Bernier, lui qui est quelqu'un qui est un dissident d'attaque, considère qu'il faut disputer au FN trois notions, la souveraineté nationale, la désobéissance européenne et le protectionnisme aussi. Donc voilà une série de discours à la gauche du PS et qui sont plutôt dans l'association entre le national et le populaire comme réponse, disons, au Front National. Plus proche du PS, on a donc ce que j'ai parlé tout à l'heure, la gauche populaire, et un intellectuel qui a été membre de ce réseau de la gauche populaire et qui en est aujourd'hui périphérique, puisqu'il n'est pas directement membre du Parti Socialiste, qui est Laurent Bouvet, dont j'ai parlé la semaine dernière. On trouve aussi quelqu'un qui a beaucoup inspiré à gauche ces thèmes, c'est un géographe, Christophe Gilluy, notamment dans son livre de 2006, Fracture française. Bon. Dans la gauche populaire, chez Laurent Bouvet, chez Christophe Gilluy, le lien populaire national, dont j'ai vu qu'il était présent chez Ruffin et chez Bernier, est aussi associé à autre chose, qui est la critique du multiculturalisme. C'est-à-dire la France serait menacée par le multiculturalisme, bon, par le fait que le fait qu'il y ait des cultures et des religions de plus en plus différentes, en général évidemment on pense plutôt à l'islam, hein, mettrait en état d'insécurité le populaire. Bon. Ce multiculturalisme mettrait les catégories populaires, ou du moins les catégories populaires blanches, entre guillemets, en état d'insécurité culturelle. Bon. Donc voilà une deuxième série de réponses qui associent le populaire et le national à gauche, qui paraissent plus à gauche que la réponse sociale-libérale de Terra Nova, mais qui font des ponts avec ce qu'on a vu la dernière fois sur le néoconservatisme, disons xénophobe, etc. car dans ce cas, la solution nationale populaire qui est proposée revêt quand même des colorations, disons, ethnicisantes, en tout cas dans l'analyse de la gauche populaire de Laurent Bouvet et de Christophe Gilluy. Mais ces dimensions ethnicisantes sont présentées sous l'égide de la laïcité comme un rempart face à l'ethnicisation qui viendrait, elle, de l'immigration. Bon. Donc en même temps, c'est quelque chose qui ethnicise, mais qui dit qu'elle n'ethnicise pas, mais qu'elle est dans la laïcité pour défendre la société française face à l'ethnicisation qui serait portée par l'immigration. Bon. Mais en tout cas, on a quelque chose qui alimente, disons, le clivage national-racial à travers, évidemment, la fétichisation du national et les éléments d'ethnicisation. On trouve aussi, parmi les tenants de cette galaxie de réponses, des appels à choisir le social contre le sociétal. Hein, faudrait abandonner le sociétal. Ben, le sociétal, c'est la lutte contre les discriminations raciales ou la lutte contre les discriminations homophobes ou la lutte contre les discriminations sexistes. Et donc, il faudrait revenir à la question sociale contre le sociétal. Bon, c'est une des grandes oppositions de cette galaxie. Ou il faudrait défendre la lutte pour l'égalité contre la lutte contre les discriminations. Il faudrait donc rompre entre social et sociétal, égalité, lutte contre les discriminations. Donc, alors, cette galaxie de réponses qui apparaît plus à gauche, qui touche aussi bien la gauche de la gauche que la périphérie du Parti Socialiste, outre de tendre à couper les liens entre émancipation et horizon mondial, bon, dont j'ai parlé lors de la première séance, ce qui est un problème puisque ça laisse le monde au capitalisme néolibéral et donc l'émancipation ne pourrait être que nationale. Bon. Mais outre de casser ce lien entre émancipation et horizon mondial, ces types de réponses qui veulent disputer le national au FN, hein, donc être en concurrence avec le FN pour défendre mieux le national, bon. En fait, leur problème, c'est qu'ils sont en retard par rapport à l'avance qu'a le nationalisme xénophobe par rapport aux conceptions républicaines de la nation. Ici, je ne veux pas mélanger les conceptions républicaines du national et les conceptions xénophobes, mais je remarque simplement que les conceptions, disons, xénophobes de la nation sont beaucoup plus en avance aujourd'hui que ces conceptions républicaines qui veulent leur disputer la nation. Dans le cadre de ce rapport de force, donc ces solutions risquent alors de renforcer l'évidence du national comme seule solution dans une dynamique favorable à la lecture xénophobe du national. Quant aux autres types de réponses qui ne font pas simplement que fétichiser le national et le lien national-populaire, mais qui ajoutent la critique du multiculturalisme et le thème de l'insécurité culturelle, ces autres réponses contribuent à alimenter l'ethnicisation. Et elles ne prennent pas suffisamment au sérieux le caractère multiculturel des classes populaires, puisqu'on a l'impression quand on parle des classes populaires, c'est les classes populaires plutôt blanches, puisqu'elles sont menacées par le multiculturalisme, donc par d'autres rapports à la religion et à la culture. Bon. Et en même temps, elles sous-estiment les ressources cosmopolites qui sont présentes dans les classes populaires, les liens des classes populaires, non pas simplement avec le national, mais avec l'international, c'est-à-dire le fait qu'après des différentes vagues d'immigration, hein, polonaise, italienne, espagnole, portugaise, maghrébine, d'Afrique noire, etc., asiatique, aujourd'hui, il y a beaucoup dans les classes populaires aussi des liens cosmopolites, c'est-à-dire des liens avec l'international, à travers le bilinguisme simplement, les liens familiaux, les liens culturels, etc., qui ont été maintenus. Or là, on arrime le populaire nécessairement au national, et l'international, ça serait pour les classes dirigeantes, hein, dans cette construction. Enfin, le choix du social contre le sociétal et de l'égalité contre le combat vis-à-vis des discriminations l'inconvénient de ne pas prendre en compte la pluralité des rapports de domination présents dans la société moderne et leur imbrication, c'est-à-dire que la domination de classe, certes, qui est posée par eux dans la question sociale, mais aussi la domination de genre, la domination raciale, la domination homophobe, etc., etc. Donc, deuxième type de réponse qui paraît plus à gauche, mais qui fait des passages avec la montée du néoconservatisme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui touche à la fois donc la galaxie du PS et à gauche de la gauche, à gauche du PS. Une autre type de réponse consiste à politiser la domination raciale comme un axe principal par rapport à la domination de classe, de genre ou homophobe. C'est l'orientation des mouvements dits post-coloniaux, notamment en France, le Parti des indigènes de la République. Bon. Alors, cette orientation post-coloniale a l'avantage de porter publiquement une forme de domination qui jusqu'à présent avaient été marginalisés dans les organisations classiques, la domination raciale ou postcoloniale. Bon. Mais ce type d'orientation a le désavantage d'opposer un ethnique qui serait positif cette fois-ci, hein, et qu'il faudrait remettre au devant de la scène parce qu'il aurait été opprimé, à un social classique à gauche. Et donc on oppose l'ethnique, qui cette fois est positif et pas négatif, au social qui est associé à la gauche classique mais qui n'est pas repris comme tel. Et c'est une façon, d'une autre façon que le FN, d'une certaine façon, de participer par un autre bout à l'évidence du clivage national-racial, tout en contribuant à délégitimer le clivage de la justice sociale. C'est le mouvement inverse de certaines réponses examinées précédemment, mais qui risque aussi d'avoir des effets négatifs dans la compétition entre les deux clivages. Enfin, je vais m'arrêter sur une dernière réponse intéressante dont je me sens le plus proche par certains côtés, mais qui me semble avoir certains manques. C'est celle proposée par une revue de gauche critique qui s'appelle Vacarme en mai 2012, au lendemain de l'élection présidentielle, dans un texte collectif qui était intitulé « Les fronts de la gauche ». Alors, ce texte de la revue Vacarme va s'opposer à la fois à la gauche gestionnaire et à la gauche dite populaire, hein, la gauche populaire dont j'ai parlé autour du PS, et va opposer à ces deux gauches, gauche gestionnaire et gauche populaire, une gauche clivante, qui serait la gauche représentée par cette revue Vacarme. Le texte commence ainsi: « Si l'on souhaite surmonter le clivage ethnique, il n'y a qu'une position tenable, dans le double sens du terme moral et stratégique. 1. Choisir clairement son bord et non faire mine de comprendre les raisons du racisme, fût-il populaire. 2. En activer d'autres pour éviter qu'il ne devienne le clivage structurant. » On voit bien que ça tourne autour des questions que j'ai abordées. À la fois, nécessairement se positionner clairement contre le racisme. 2. Éviter que la question raciale devienne le clivage structurant de la société française. Alors, ce texte rappelle alors justement que l'identité de classe n'est pas un antidote au racisme, en tout cas s'il n'est pas adossé à l'internationalisme. L'identité de classe ne peut être un antidote au racisme que s'il est associé à une ouverture internationaliste. Il pointe aussi, ce texte, l'erreur historique d'une gauche qui était centrée sur une vision traditionnelle du clivage de classe. Je cite le passage, cette erreur historique, c'était « hiérarchiser les clivages et faire de la lutte des classes un front principal au regard duquel tous les autres conflits sociaux seraient des fronts secondaires, hein, les femmes, l'écologie, les jeunes, les immigrés, etc. Ce fut la tentation traditionnelle du Parti communiste et des groupuscules gauchistes jusque tard dans les années 1970. Le danger de revenir à une vision du clivage de classe assez classique. » Cependant, il me semble les manques de cette réflexion intéressante de la revue Vacarme, c'est sur le fait que le texte débouche au final sur l'idée qu'il faut mettre l'accent sur la diversité des fronts, la diversité des clivages, et ce texte n'insiste pas sur l'importance de la fabrication d'espaces communs à partir de cette pluralité. C'est-à-dire fabrication d'espaces communs supposant un travail de convergence, plutôt que de se laisser piéger par le couple classique en philosophie, mais aussi en politique, de l'opposition de l'un et du multiple. Hein. Soit c'est l'unité, soit c'est la pluralité. Hein. On peut dire que ceux qui sont du côté de la nation, ils sont du côté de l'unité. Hein. La nation, elle refait l'unité et elle casse la pluralité. Et eux, ils vont défendre la diversité, la pluralité. Ils choisissent donc plutôt l'un contre le multiple, à la différence des solutions que j'ai envisagées auparavant, qui choisissent, disons, le multiple contre l'un, alors que les solutions envisagées auparavant choisissaient l'un contre le multiple. Bon. Mais ils oublient, à mon avis, la question de la fabrication du commun à partir du multiple, hein, qui n'est pas forcément l'unité. Bon. Et c'est là, donc, où je vais avancer quelques pistes alternatives, pour finir. Donc, de la critique de cette série de réponses erronées face au risque du FN, plus largement du danger néoconservateur xénophobe nationaliste, peut émerger une série de pistes possibles. Alors, j'aborderai une piste principale d'abord et puis quelques pistes complémentaires, hein, je serai assez rapide. La piste principale, elle ne concerne pas les terrains antiracistes et antifascistes. En fait, c'est d'abord l'idée que la réponse au Front National n'est pas principalement antiraciste, n'est pas principalement antifasciste. Que la dimension antiraciste et antifasciste peuvent constituer des terrains utiles, mais secondaires par rapport à cette réponse principale. Quelle est cette piste principale ? Il s'agirait alors principalement d'opposer au clivage national-racial une vision rénovée et élargie de la question sociale. Donc, opposer au clivage national-racial, non pas la vision traditionnelle de la question sociale, mais une version rénovée, élargie de la question sociale. Qu'est-ce que ça veut dire rénovée, élargie? Ce serait une question sociale qui serait nourrie de la question de l'inégalité des ressources économiques, bien sûr, mais aussi des inégalités des ressources culturelles, des ressources politiques, des possibilités de reconnaissance qu'ont les individus et le groupe dans notre société, et pas simplement les ressources économiques. Et donc aussi des discriminations diversifiées des individus et des groupes dans l'accès aux différentes ressources. Donc là, on ne casse pas le lien entre égalité et discrimination. Une question sociale qui serait alimentée par la domination de classe, certes, mais aussi par les dominations de genre, la domination raciale et postcoloniale, l'hétérosexisme, etc., qui contribuent aussi à configurer la question sociale. Une question sociale, donc, qui réintégrerait le sociétal, au lieu d'être basée sur l'opposition entre le social et le sociétal. Une question sociale qui redonnerait sa dignité au mot ouvrier, mais sans en faire, de manière ouvriériste, disons, le cœur de la construction, hein, autour du pôle ouvrier, mais un des pôles de la construction de la question sociale, en tenant compte donc de la diversification du salariat et des formes contemporaines de précarisation. Donc, cette version élargie de la question sociale serait à fabriquer dans des tensions, des convergences, des coopérations d'une diversité de mouvements sociaux, mais aussi, disons, en promouvant la reconstitution d'une politique d'émancipation à partir des expériences quotidiennes, de la vie ordinaire, à la fois de cette diversité des mouvements sociaux, et en essayant aussi de partir, ce que fait peu souvent la politique aujourd'hui, du quotidien et de l'ordinaire. Donc la piste principale, elle concerne ça. Pour, disons, si on pense que la compétition entre le clivage national-racial et le clivage de la justice sociale est devenu un élément important pour comprendre ce qui se passe, disons, dans la société française et dans la politique, à travers les progrès de l'extrême droite, une des solutions principales est de, disons, reconfigurer une question sociale ou un clivage de la justice sociale élargi, disons, et rénové. Bon. Alors, autour de cette piste principale, il y aurait aussi une série de pistes complémentaires en vrac de manière non exhaustive. Première piste, il faudrait être vigilant vis-à-vis du mépris du populaire, voire de ce qu'on peut appeler le racisme de classe, qui accompagne souvent la critique du racisme ethnique. Hein. La critique du racisme est accompagnée d'un mépris de la beaufitude, de l'abrutissement de ces beaufs, etc., et d'une stigmatisation, disons, élitiste du populaire. Bon. C'est dans une veine analogue, ce qu'a bien mis en évidence le travail d'Annie Colloval, il faut éviter de recourir au mot populisme, qui s'est imposé pour parler du Front National, par erreur, pour critiquer le FN, puisque, en parlant de populisme, on dote le Front National de forces populaires supplémentaires, en faisant qu'il est clair qu'il y a bien un lien entre populaire et Front National, et d'autre part, on contribue à stigmatiser uniformément comme raciste l'ensemble des milieux populaires. Et donc cette idée de populisme pour parler du FN est une grave erreur qui s'est imposée dans l'univers médiatique et intellectuel. Il s'agirait plutôt de réévaluer le beau mot de populaire dans sa diversité sociale ou sa polyphonie sociale et culturelle, contre une vision essentialiste du populaire ou quelque chose qui serait compact d'une certaine façon. Première piste complémentaire. Deuxième piste complémentaire, c'est le problème de la reconstitution de convergence au sein du mouvement antiraciste, puisque le mouvement antiraciste s'est divisé au cours des années 1990, on en avait déjà parlé, autour notamment de ceux qui, dans un premier temps, ont accordé une primauté à la lutte contre l'antisémitisme et ceux qui ont accordé une primauté à la lutte contre l'islamophobie, ce qui a entraîné des formes, disons, de concurrence des racismes et des antiracismes, disons, dans le mouvement antiraciste lui-même. Donc, il y a un enjeu ici à reconstituer des convergences au sein du mouvement antiraciste qui prennent en compte à la fois les spécificités des différentes xénophobies, qui sont trop souvent en concurrence aujourd'hui, je l'ai dit, islamophobie, négrophobie, antisémitisme et romophobie notamment, mais aussi leur réarticulation autour d'un horizon commun de commune humanité, donc qui constituerait un point complémentaire important. Troisième piste complémentaire, il ne faudrait pas nier les perturbations qui sont introduites dans les milieux populaires, comme le montre une diversité d'enquêtes, par les délinquances. Bon. Mais il s'agirait de s'efforcer de trouver une lecture et un traitement des délinquances qui ne participent pas de l'obsession sécuritaire et de l'ethnicisation de ces obsessions sécuritaires. Bref, il faudrait réintégrer les rapports aux délinquances dans la question sociale, tant du côté d'ailleurs des victimes de la délinquance que des délinquants eux-mêmes, plutôt que le sécuritaire ne vienne structurer la question sociale comme souvent aujourd'hui, on le voit trop souvent. Mais pas nier cette question, mais essayer de la réintégrer. Bon. Enfin, nous aurions besoin de ce que j'appelle la relance d'une cosmopolitique populaire dans le sillage de l'internationalisme du mouvement ouvrier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les expériences ordinaires, cette cosmopolitique populaire pourrait s'appuyer sur des ressources internationales qui sont présentes dans les classes populaires, qui ont été affectées depuis au moins 2 siècles par plusieurs vagues d'immigration. C'est ce qu'a bien mis en évidence un travail sur les classes sociales dans la mondialisation d'une sociologue qui s'appelle Anne-Catherine Wagner. Je l'ai dit tout à l'heure, bilinguisme, liens familiaux, culturels, commerciaux, etc., qui existent aussi dans les classes populaires, et qui sont des liens internationaux, et des ressources internationales. Donc dans les expériences ordinaires, et aussi dans les formes de mobilisation, c'est-à-dire il faudrait s'appuyer aussi sur les coopérations syndicales internationales, comme sur les réseaux altermondialistes qui ont été préconstitués. Ces coopérations syndicales internationales et ces réseaux altermondialistes, coopérations syndicales internationales qui existent mais qui sont peu actives, réseaux altermondialistes qui ont connu certains reculs dans les dernières années, mais qui ont été plus vivaces à d'autres moments, ces différents éléments peuvent être vivifiés par une diversité d'initiatives locales. Il ne faut pas se poser la question de savoir, mais ça viendrait d'en haut, en fait, par toute une série d'initiatives locales, syndicales, associatives, jumelage alternatif, expérimentation de l'économie sociale et solidaire. On peut donner des composantes internationales à une action locale. Et donc c'est à la portée de chacun, d'une certaine façon, de faire ces connexions internationales. Dans ce cadre, il me semble que la perspective de grève européenne et plus largement internationale devrait être davantage mise en avant, déjà par des collectifs syndicaux locaux, et parfois plus largement dans des branches d'activité particulières où c'est davantage possible, je pense que où les liaisons syndicales sont davantage développées, comme dans le cadre des transports, en tout cas des transports ferroviaires. Ici, il me semble que une philosophe politique américaine importante, féministe et radicale, qui s'appelle Nancy Fraser, dans un livre paru l'an dernier qui s'appelle Le féminisme en mouvement, a bien mis en évidence les liens qui sont à consolider entre internationalisme d'une part et protection sociale. Parce que souvent, on va associer nation à protection et on va associer monde et Europe à quelque chose qui va défaire les protections. Donc il y a à retrouver un lien entre international et protection sociale, comme le met bien en évidence Nancy Fraser. Il ne s'agit pas de diaboliser le niveau national d'action, mais de ne pas s'enfermer dans ce niveau national, en travaillant à chaque fois des articulations entre le local, le national et le mondial, à la manière, par exemple, de ce qu'ont bien fait les apatistes mexicains dont on fête la rébellion cette année. Bref, il faudrait rester ouvert sur un horizon mondial en commençant dès maintenant à développer des solidarités internationales et dès maintenant, dès le niveau local. Voilà, ce sont que quelques pistes qui indiquent la possibilité d'un chemin distinct de ceux que j'ai critiqués dans un premier temps, de réponse au Front National, à gauche, face à cette menace de ce que j'ai appelé un post-fascisme et plus largement de la diffusion d'une idéologie néoconservatrice xénophobe nationaliste. À travers cette possible réponse de gauche au risque FN dans l'urgence du court terme, parce que ce risque il est là immédiatement, commencent à se dessiner des repères pour la réinvention d'une politique d'émancipation pour le 21e siècle, là, à moyen terme. On voit qu'à travers cette réponse au court terme, il y a déjà des éléments du moyen terme, une nouvelle façon de concevoir l'émancipation qui commence à se dessiner. Il y a une intersection ici entre ce qui est un de nos problèmes aujourd'hui, les urgences du court terme et le travail à faire sur le moyen terme, c'est-à-dire reconstituer une gauche et une politique d'émancipation, alors que largement les gauches sont aujourd'hui dans le brouillard. Mais la réponse au risque FN ne constitue qu'un bout de la reconstitution d'une politique d'émancipation pour le 21e siècle. Les enjeux qui ont émergé à travers les mouvements sociaux ces dernières années, comme à travers les aspirations qui s'expriment dans la société, devraient conduire à associer cette question sociale rénovée et élargie, dont j'ai parlé, qui est un élément principal de réponse au Front National, cette question sociale et rénovée élargie devrait être associée à trois autres questions que je signale simplement comme ça. La question individualiste, c'est-à-dire la valorisation des possibilités de chaque individualité singulière, qui ne peut d'ailleurs se réduire à aucune appartenance collective, car chaque individu est tissé d'une diversité de fils collectifs, c'est-à-dire qu'un individu, ce qui fait sa singularité, c'est qu'il ne peut pas être réduit à son fil national, à son fil religieux, à son fil d'appartenance divers. Justement, ce qui fait sa singularité, c'est qu'en lui se tissent différents fils collectifs, et c'est ça qui fait qu'il est unique. Et cette question, cette valorisation des possibilités de chaque individualisation de singulière doit se faire en articulation avec les exigences de justice sociale et les contraintes de constitution d'espace commun. Deuxième question à côté de la question sociale rénovée élargie, la question que j'appelle démocratique libertaire, qui renvoie aux modalités de l'autogouvernement des collectivités humaines, en rupture avec des formes bureaucratiques, autoritaires, centralistes, que ce soit hier ou aujourd'hui, comme tout particulièrement avec les concentrations de pouvoir qui sont générées par les régimes représentatifs professionnalisés actuels, c'est-à-dire les régimes qui sont bâtis sur la représentation politique et la professionnalisation politique moderne, que certains appellent démocratique, mais que je préfère appeler régime représentatif professionnalisé. Enfin, quatrième question, la question écologiste qui concerne la condition de vivabilité, disons, des sociétés humaines sur le long terme. Et donc, il me semble que la rénovation d'une politique d'émancipation pour le XXIe siècle devrait associer ces quatre questions. Cette question sociale rénovée, élargie, que pose tout particulièrement dans l'urgence le risque FN, mais aussi en lien avec ces trois autres questions, la question individualiste, la question démocratique libertaire, la question, disons, écologiste. Donc voilà, il y a toute une série de sentiers qui m'apparaissent à la fois intéressants. Ces sentiers sont inquiétants et passionnants en même temps, on pourrait dire. Ils sont dangereux et, d'une certaine façon, joyeux, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à reconstituer. Alors, en guise de conclusion générale de l'ensemble des trois séances, je voudrais simplement signaler que les analyses que j'ai avancées dans les trois séances sont largement hypothétiques, parce que ce sont des faiblesses inéluctables quand on se confronte intellectuellement au bruissement et aux brumes de ce qu'on appelle l'actualité, ce qui est en train de se passer. Bon. Et donc, quand on se confronte à l'actualité, il y a une fragilité supplémentaire, tant pour les outils sociologiques que j'ai utilisés que pour les ressources de philosophie politique. Parce qu'il s'agit de rendre intelligible ce qui est d'une certaine façon encore chaud, donc quelque chose qui est susceptible de s'orienter dans différentes directions. Et les discours qu'on peut tenir peut contribuer ou pas à faire que ça s'oriente dans telle ou telle direction. Donc il y a une difficulté, une fragilité particulière, disons, à s'affronter avec des outils de connaissance à l'actualité chaude, d'une certaine façon. C'est ce que le philosophe Maurice Merleau-Ponty appelait l'époque dans un très beau texte de juillet 1948. Je cite Merleau-Ponty. L'époque, c'est notre temps traité sans respect, dans sa vérité insupportable, encore collé à nous, encore sensible au jugement humain qui le comprend et qui le change, interrogé, critiqué, interpellé, confus comme un visage que nous ne savons pas encore déchiffrer, mais comme un visage aussi gonflé de possible. Donc ce sont les limites inhérentes à l'exercice que j'ai proposé au cours de ces trois séances. Des limites qui appellent une certaine humilité, c'est pour ça que je parle souvent d'hypothèse plutôt qu'une arrogance dans l'analyse, mais cette humilité n'en exclut pas l'engagement, bien au contraire. En tout cas, si on suit la suite du texte de Merleau-Ponty sur lequel je terminerai, quand on évite toute rencontre avec l'exubérance et le foisonnement du présent, on sauve plus facilement les schémas et les dogmes. La pensée dégagée, c'est le dogme ou la lettre. La pensée engagée, c'est l'esprit de recherche.